Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition, cette énième édition, on ne les compte plus depuis l'automne dernier ou à peu près, en tout cas. François, peut-être qu'il compte, lui, je sais pas.
3458e.
T'es pas loin. T'es probablement pas loin. Non, non, mais sérieusement. Bienvenue à Peu contenir des infos. Comment vas-tu, cher ami?
Ça va bien, et toi?
Ça va?
Oui.
C'est l'hiver, il y en a peut-être pas plus qu'il nous en reste à faire, mais rendu à ce temps-ci de l'année, il y a quelque chose d'encourageant là-dedans, c'est qu'au moins on avance, tu sais.
On voit un petit peu la fin.
Tranquillement, pas vite.
Oui.
On n'est pas encore là, là.
C'est encore loin, là, mais on commence à voir la fin.
C'est ça. On se rapproche tranquillement, pas vite du mois de mars. Puis
on est encore loin des pissenlits.
Ben, il y a ça de positif, par exemple.
Ben, oui, il y a ça aussi.
Ça, c'est sûr.
Non, non, mais il y en a qui font du vin avec.
J'ai essayé ça.
Ouais.
C'est pour ça que tu voulais me parler de ça ou...
Ben, je savais que tu
ben, on avais essaye, déjà... on a essayé de faire du vin de pissenlit cette année pour une première fois. Jamais fait ça de ma vie.
OK.
Mon père me vantait le vin de pissenlit que ma grand-mère, ma défunte grand-mère, faisait à l'époque. Il disait que c'était succulent. Il disait, arrivait le temps des fêtes, et elle sortait le vin de pissenlit, puis tout le monde voulait avoir du vin de pissenlit, même que le monde en redemandait. Essayez ça.
Et?
Puis ça a fini que, c'est ça, elle y a vu plus rapidement qu'autrement. Tu sais, c'est pas drôle, par exemple, de commencer ça à l'été, de laisser ça d'une cuve pendant tout l'automne, puis d'arriver au mois de décembre, puis de finalement, tu goroches ça dans l'évier.
Ouais, c'est... non, on va passer cette année.
Non, c'est ça. Tu sais, je voulais pas me rendre aveugle non plus.
Premier essai, premier échec.
Mais ça sentait fort.
Ça sentait l'alcool.
Ça sentait l'alcool, mon vieux, ça avait pas de bon sens. J'ai dit non. J'ai juste mis les lèvres sur le bord, j'ai fait comme non.
Ah, c'est correct.
On l'aura essayé au moins.
Non, mais c'est ça.
Comme ma conjointe a dit, ma femme a dit, au moins, tu sais, c'est pas comme si on avait été obligé de brasser ça puis de taponner ça pendant des semaines et des semaines puis des mois. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'au début, il faut que tu ramasses les petits boutons puis il faut que tu fasses bouillir ça. Tu sais, c'est un petit peu du taponnage.
J'ai l'image de toi, là.
Mais au bout du compte...
À quatre pattes sur le gazon.
Mais au bout du compte...
Oui.
C'est pas pire que ça pour le reste, là. Tu sais, un coup que c'est parti, ça fonctionne tout seul.
Oui, c'est ça.
Mais ça donne ce que ça donne.
Ben oui. Mais t'avais-tu suivi une recette ou?
Oui. On avait suivi une recette. Puis c'était, je pense, une recette de Ricardo, si je me trompe pas, ou un truc du genre. Oui, c'était un... Puis il y avait du monde qui était là, puis disait, j'ai goûté ça, puis c'était bon, puis tout ça. Écoute, non. Non. Alors, vous le savez, là, mesdames, messieurs, le printemps prochain, quand les pissenlits vont arriver, gorochez-vous. À moins que vous vouliez vraiment l'essayer.
Ben oui.
Gorochez-vous pas sur le terrain.
Parce que ça coûte pas nécessairement cher l'essayer non plus.
Ben non, c'est un peu de levure à toute fin utile, c'est de l'eau, tu sais, tout un petit peu de brassage, mais ça dans une cuve là, ou dans une espèce de chaudière, pas trop, puis... Fait que c'est ça. Tu sais, au bout du compte,
Ben non, mais ça a fait passer le temps.
À part au début, le reste, tu laisses ça là pendant une couple de semaines, de mois.
Mm-hmm.
Je pense qu'on l'a laissé trop longtemps, sais-tu quoi? D'après moi, c'est probablement ça. C'est pas, en tout cas. On parle, puis sais-tu une affaire? On a des sujets à aborder, mine de rien.
Oui, quelques sujets, oui.
De quoi? On va parler aujourd'hui, tantôt, là.
C'est ça.
On a une bonne entrevue à vous offrir.
Ah, vous allez aimer ça.
Vous allez aimer ça. On a jasé un petit peu avec le monsieur avant de s'entretenir avec lui pour cette entrevue-là. Puis, franchement...
Oui.
Ça va être intéressant.
Ça va être intéressant.
Oui. On va parler d'un sujet...
C'est un petit peu touchy.
Oui.
Mais...
Mais c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde à un moment donné ou l'autre de notre
existence. On n'a pas le choix d'en parler, fait que...
C'est ça. Je pense qu'on vient d'ouvrir une lumière un peu dans la tête.
On a décidé de...
OK.
De vous en parler.
Tu veux nous parler de l'iPhone?
Je vais vous parler de l'iPhone parce que les nouveaux iPhone et les nouvelles Apple Watch ont des fonctions de détection de collision.
OK.
Fait que donc, si vous avez un accident, ça va alerter tout de suite les autorités.
Ah, ben c'est quand même pas si pire.
Non, c'est super bien pensé, là. Super bien pensé. relativement bien fait.
Relativement?
Relativement. Pourquoi? Parce que ça a causé des problèmes à certaines personnes.
Ah ouais.
Voyez-vous, parce que aux États-Unis, il y a des skieurs et des skieuses, des planchistes et même des motoneigistes qui avaient activé le mode de détection de collision sur leur téléphone et ils ont eu la fâcheuse surprise d'avoir déclenché le processus d'alerte.
Hein?
Et ça a causé un méchant casse-tête pour les services d'urgence locaux. C'est simplement parce que les capteurs qui sont sur le téléphone, ben ils peuvent détecter les changements de pression d'air liés au déploiement, entre autres, des sacs, des
coussins gonflables,
des coussins gonflables dans une voiture, ou encore les sons, les mouvements et même la position GPS. Alors, vous imaginez que lorsque vous faites du ski...
Ben oui, puis tu descends un petit peu rapidement.
Tu frappes des bosses... Fait qu'il y a toujours un contact qui se fait à quelque part.
Et c'est bien.
Alors,
c'est
ça, ça a fait déclencher. Mais,
c'est too much, ça. C'est que...
Ben.
Là, je comprends le principe, je comprends l'idée. Je veux dire, l'idée n'est pas dénuée d'intérêt, mais si ça se déclenche
c'est juste
comme
ça. Oui, mais c'est juste qu'on n'avait pas nécessairement pensé jusque-là.
OK.
C'est comme n'importe quel.
Gadget ou
nouveau gadget, l'invention. Ben. À un moment donné, il va y avoir un bug ou deux qui vont arriver. Et effectivement, Apple a, entre autres, fait deux mises à jour depuis ce temps-là.
Réduire un peu la sensibilité, j'imagine.
Ben, c'est ça, exactement. Et aussi, qui ajoute une option pour signaler une fausse alerte à Apple.
OK.
Fait qu'au moins ça, là.
J'en reviens pas.
Parce que sinon, les gens, ils peuvent toujours mettre temporairement le système en pause en activant le mode avion. Là, ça va désactiver les capteurs.
Ouais, mais attends, là, je veux dire, OK.
Ouais, mais tu sais, tu descends en ski.
Non, t'as pas forcément besoin de recevoir des SMS puis de recevoir des appels, j'en conviens,
ben,
mais...
Ça, tu checkeras pas tes textes en descendant, là.
Mais en même temps, c'est parce que la problématique aussi, c'est que si t'arrives en bas puis que t'oublies de réactiver ou le téléphone ou de désactiver, on va dire, le mode avion, c'est pas d'avance non plus, là. T'as pas avoir une fonction.
Ben non, effectivement.
Ah ouais, hein. Ouais. Eh ben.
Ouais. Mais ça a pas connu juste des ratés là. Ça, il y a eu des belles affaires qui sont arrivées. Entre autres, les services d'urgence qui ont pu être contactés rapidement à la suite d'un accident qui était survenu dans le Nebraska aux États-Unis, grâce à cette technologie-là. Alors, tu sais, c'est un beau gadget, mais c'est sûr qu'en s'en allant, on va
y a des ratés.
Bah oui, on va avoir des petits ratés ici puis là.
Dans le monde technologique, je pense qu'on vit beaucoup de cette façon-là.
Oui.
On a qu'à voir, par exemple, les applications quand elles sont lancées dans le Play Store ou dans l'App Store de d'Android ou encore d'iOS. Ben souvent, ils lancent ça puis advienne que pourra. Là, l'application, ben souvent, est pas tout à fait aboutie. Puis on va corriger en cours de route.
Je pense que c'est rendu tellement compétitif qu'on sort peut-être les choses un petit peu trop vite. On les teste peut-être moins qu'on les testait avant.
Et probablement aussi que parce que, comment je dirais ça, l'évolution se fait tellement rapidement qu'on se dit, ben si je la sors pas là, cette application-là, il y a d'autres nouvelles fonctionnalités qui vont arriver que je vais être de toute façon obligé d'installer soit dans l'application, dans l'appareil et tout ça.
Ouais.
Ça fait qu'on procède rapidement, puis advienne que pourra.
C'est ça. Ça donne ce que ça donne.
Je veux te parler rapidement des applications les plus téléchargées au cours de la dernière année, l'année 2022.
Oh. OK, oui. C'est intéressant, ça.
C'est Apptopia qui se spécialise, entre autres choses, dans la compilation de données qui concernent les applications mobiles.
OK.
Ils font ça eux autres. Ils compilent, ils dressent la liste des applications les plus téléchargées à travers le monde et aux États-Unis. Je parlerai pas particulièrement des États, je veux parler du monde entier, là. C'est quoi l'application la plus téléchargée en 2022?
J'essaie de penser, là. TikTok?
Ben voyons, tu viens de me brûler le punch.
T'es sérieux?
Oh ouais, non, c'est vrai. TikTok. Non, mais c'est correct. C'est correct. Ouais, TikTok.
Ah oui, hein?
Ouais, TikTok, c'est ici au sommet de la liste select des applications les plus téléchargées au monde.
OK, parce qu'on en entend tellement parler que je me... Ben, c'est pour ça que j'ai pensé à TikTok.
Ouais, ben je dis c'est ici, mais en fait, elle est là depuis 2020.
Oh, OK.
Ouais. Alors, TikTok a été téléchargé 672 millions de fois. Donc, elle conserve 672 millions de fois. Faut pas ça, là, mais ça a l'air que c'est vrai. Ouais. Alors, ça la place bien en avant de l'application Instagram, qui a été téléchargée, celle-là, à 548 millions de reprises.
Mm-hmm.
Et c'est l'application WhatsApp qui vient en troisième position, 424 millions d'installations. As-tu WhatsApp?
Non.
Non plus. Mais les jeunes aiment ça pas mal, ça a l'air.
Oui, oui. Oui. Ben, c'est
pas comme si j'étais bien vieux, là.
T'sais. Ouais, ben, c'est ça.
CapCut. Ça, je connais pas ça non plus. WhatsApp, je connais. C'est pas parce que je l'ai pas que je
l'ai. Non, c'est ça, on les connaît.
CapCut.
CapCut, je connais pas ça.
Ouais, c'est une application, ça a l'air d'édition vidéo qui appartient au groupe chinois ByteDance. Tu sais que ByteDance, c'est eux autres qui ont TikTok.
Oui.
Ben, ils réussissent aussi à faire la quatrième position avec une autre application, CapCut, 357 millions de téléchargements. Quel a été le jeu mobile le plus installé en 2022?
Moi qui n'ai pas tellement jeu. Solitaire.
Ça aurait pu. Ça aurait pu être Wordle aussi.
C'est ça, on en a parlé
l'autre fois. Non, c'est le jeu de plateforme Subway Surfers. C'est un bonhomme qui se promène
Sur des trains, là.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai déjà joué, lui.
Ouais, c'est un développeur danois, Kilu Games, qui a fait ça, qui se démarque du lot. 304 millions de téléchargements à travers le monde. Ça, c'est le jeu. Parce que tantôt, on parlait d'application, là, mais là, c'est on parle de jeu. Stumble Guys occupe le deuxième rang.
Stumble Guys.
Je connais pas. Non. Roblox, troisième place. Un espèce de jeu de blocs, là.
Ah, OK.
J'ai un de mes gars qui aime ça, ça a l'air.
OK. Ouais.
Et c'est un palmarès qui combine les données des deux plus grandes boutiques d'applications mobiles, évidemment. On parle de l'App Store d'Apple pour iOS et le Google Play Store d'Android. Mais ça n'inclut pas les boutiques d'applications alternatives, comme, par exemple, Amazon App Store ou la boutique, le fameux F-Droid, par exemple. Ben, c'est normal parce que on veut prendre les boutiques où les applications sont susceptibles de se retrouver sur l'une et sur l'autre. Fait souvent, quand l'application est dans le Play Store, elle va se retrouver sur l'App Store, mais c'est pas forcément le cas pour F-Droid, par exemple, qui est consacré surtout aux applications d'Android, ou encore Amazon App Store. Tu comprends? C'est pour ça un peu.
Ouais.
Alors, dans l'ordre de la dixième à la première, Spotify numéro 10, en tout et pour tout, là, toute application confondue, jeu et tout ça. Stumble Guys numéro 9, Facebook 8e, Subway Surfers 7e, Telegram. Telegram, c'est une autre application de communication.
Oui.
Là. C'est le 6e rang. Snapchat est 5e.
Okay.
Et on l'a dit tantôt, CapCut 4e, WhatsApp 3e, Instagram numéro 2 et TikTok qui est sur première marche en haut de l'échelle. Avec, l'ai dit tantôt, là, combien? Ben, 672 millions. Ouais, c'est ça.
C'est effrayant.
Ça fait beaucoup d'applications, effectivement.
Oui, effectivement.
C'est le moment de marquer un temps d'arrêt et de revenir dans un instant avec notre première entrevue de l'émission consacrée, mesdames, messieurs,
restez là.
Quelque chose de plus spécial. Restez là.
Cette émission peut contenir des infos.
François, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est, disons, pour le moins, entre guillemets, touchy, si on veut.
Oui, effectivement. Effectivement.
Mais ça fait quand même partie de la réalité de la vie. Parce que la vie.
Et c'est des choses qu'on doit discuter.
Qu'on doit discuter un jour ou l'autre. Parce que la vie, c'est naître, c'est vivre et mourir.
Exactement.
Et vous aurez deviné qu'aujourd'hui, on va parler de rites funéraires. On connaît déjà certains rites funéraires qui sont, ma foi, très connus. Qu'on pense, par exemple, à l'inhumation, l'incinération.
C'est ça.
Mais il y a de nouvelles techniques également qui existent. Disons, de nouveaux rites funéraires qui sont relativement récents. Mais qui sont encore méconnus et qui gagnent en popularité, mine de rien.
Okay, oui.
Et on va parler aujourd'hui de l'aquamation, qui est autorisée dans quand même quelques provinces et aux États-Unis également, que je sache.
Au Canada, Terre-Neuve et Labrador, depuis 2019, en Ontario et au Québec depuis 2015, en Saskatchewan depuis 2012, ainsi qu'au territoire du Nord-Ouest depuis l'année 2020. Bien entendu qu'il y a d'autres, il y a des gens qui le demandent aussi ailleurs au Canada pour que ce soit autorisé. Tandis qu'aux États-Unis, cette technique-là, elle est autorisée dans 28 États.
Celui qu'on va recevoir aujourd'hui en entrevue, parce qu'on se pose des questions justement sur ce qu'est l'aquamation, je dirais pas que c'est la sommité en la matière, mais il est en tout cas suffisamment connu pour que quand vous tapez le nom ou enfin le mot aquamation dans Google, c'est le premier résultat qui sort,
exact.
Le site web de son entreprise. Le président du complexe funéraire Le Sieur à Granby au Québec, c'est Monsieur Éric Le Sieur qui est avec nous en entrevue et au cours des prochaines minutes, on va parler justement de cette technique qu'est l'aquamation. Monsieur Le Sieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Le Sieur, l'aquamation, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens à travers notre auditoire qui ne connaissent pas cette technique-là. Qu'est-ce que c'est que l'aquamation, au juste?
La crémation, dans le fond, c'est une alternative à la crémation. C'est sûr et certain que les gens qui vont opter pour la crémation, c'est plus des gens qui auraient opté pour une crémation. Les gens qui optent toujours pour l'inhumation, enterrer le cercueil, c'est pas nécessairement la clientèle qui va aller vers nous, mais peut-être possible aussi, mais c'est plus des gens qui choisissent une crémation. Parce que l'aquamation, dans le fond, c'est comme une crémation, parce que les gens, souvent, ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'est une vraie crémation. Les gens, quand on dit une crémation, on dit ça donne des cendres.
Mm-hmm.
Mais oui. Les cendres, c'était le mot facile parce que on venait d'utiliser du feu. Mais dans le fond, ce n'est pas des cendres qu'on retrouve dans l'urne. Ce okay. sont de la poussière d'os, parce que des os, je dis des os, c'est des os, là.
Oui.
Mais donc les os, une fois qu'ils sont mis en poussière, c'est ça qu'on appelle les cendres, mais dans le fond, c'est toujours été de la poussière d'os, parce que l'os en tant que tel ne brûle pas dans le feu. Donc là, les gens, ben quand on parle d'aquamation, ben là, ils disent ben là, nous, on veut qu'il nous reste des cendres. Mais là, faut leur expliquer ben que c'est pas parce qu'on utilise pas de feu que ça fait pas la même chose. Parce que les os, les os, c'est juste pour mélanger l'eau qu'on utilise et le
oui.
bois. Mais donc, je vais faire la faute d'orthographe du pluriel, là, mais juste que vous voyez les différences.
Absolument.
Donc, les os, quand on les récupère à la fin dans notre machine après l'aquamation, quand l'eau se vide, mm-hmm. il nous reste encore toutes les os. Et là, on récupère ces os-là, on les met dans la même machine qui va les moudre, qui va en faire une poussière et qui va donner la même chose dans votre urne. Et c'est là que cette petite interrogation-là fait que les gens sont « Ah, ben là, l'aquamation, c'est tout part par l'eau. » C'est pas vrai. Puis la crémation, ben c'est pas vrai que tout part par le feu. Il reste toujours un squelette des os à la fin.
OK, parce que c'est ça, monsieur Le Sieur, qu'on entend depuis tantôt, le mot « à quoi », c'est-à-dire qu'on dispose d'un corps, enfin, le rite funéraire, ça se passe avec de l'eau.
C'est ça. L'eau remplace le feu. L'eau, bien sûr, vous comprendrez que c'est pas juste l'eau en tant que telle. On appelle ça de l'hydrolyse alcaline.
Okay.
Donc, de l'hydrolyse alcaline, ça veut dire quoi en jargon facile? C'est que l'eau va atteindre un pH élevé. Donc, dans une solution alcaline et non acide, donc c'est très important de faire la différence, donc le pH est élevé, dans une solution alcaline et l'eau, à une température, peu importe qu'elle soit en haut du point d'ébullition ou en bas, notre machine à nous au Québec, elle est à basse pression. Ça veut dire qu'elle n'atteint pas le point d'ébullition. Elle dépasse pas le 100 degrés.
Okay.
En Ontario, la plupart des machines sont à haute pression. En Saskatchewan, c'est une machine à basse pression. Là, les suivantes qui ont été achetées par la suite, je ne pourrais pas vous dire. Mais au Canada, on retrouve ces deux machines-là, une basse pression ou une haute pression. Mais une ou l'autre fait que le corps va se décomposer naturellement dans l'eau, comme si on l'avait mis dans terre au cimetière, mais dans une période accélérée. La chaleur de l'eau va juste jouer sur la durée du temps. Donc, c'est plus rapide quand l'eau est un petit peu plus chaude, mais sinon, le résultat à la fin va être exactement la même chose. On va retrouver un squelette que lui ne sera pas décomposé, qu'on va récupérer, qu'on va mettre en poussière, puis qui va être remis dans l'urne.
Est-ce que c'est une technique qui est répandue?
Elle existe depuis 100 ans.
Oh oui.
C'était plus pour les animaux. Juste vous donner quelque chose que tout le monde va se souvenir, la crise de la vache folle en France.
Ah oui?
Oui.
Ça a été enrayé par un procédé d'hydrolyse alcaline, donc de l'aquamation, si on peut dire.
Ouais.
Parce que le nom aquamation, là, c'est un peu nous autres qui l'a inventé. Là.
OK.
C'est un branding.
C'est moi qui l'a plus propulsé, ce nom-là. C'est pour ça qu'on le connaît beaucoup sur Google, comme vous avez mentionné au début.
Oui.
Là. Mais c'était ça s'appelait pas de même. Là. Aux États-Unis, eux autres, c'est Green Cremation, Résomation.
Okay.
Mais aquamation, c'est un peu nous autres qui l'a inventé là, ici au Canada. Là. Donc, ça existe depuis plusieurs années. Il le faisait pour les animaux. Et c'est ça qui tuait toute maladie infectieuse.
Oh.
Le procédé d'hydrolyse alcaline. Encore aujourd'hui, les médecins, les chercheurs se penchent pas vraiment là-dessus et ils n'ont pas fait vraiment d'études. Mais il y a des gens qui l'ont fait, mais pas vraiment au Canada. Et encore là, présentement, on vit une problématique avec notre gouvernement au Québec, c'est que là, ils veulent autoriser seulement des machines à haute pression. Parce qu'ils pensent que si l'eau bouille pas, ouais, ça ne tuera pas tous les prions ou les choses infectieuses. Ce qui est faux. Il y a des rapports qui prouvent que si tu fais une dose alcaline, c'est pas important la température de l'eau. Le procédé il va détruire tout.
OK. Parce que l'eau retourne. L'eau retourne finalement à l'usine.
Exactement. Elle retourne à la traitement des eaux. Mais qu'est-ce qui sort de la machine? C'est seulement des particules qu'on va retrouver dans l'eau. Okay. Il n'y a aucun morceau solide là, qui sort de la machine. Tout est décomposé en particules. Donc, c'est de l'eau brune, si on peut dire, on s'entend. Ouais. Mais de l'eau qui va être filtrée et traitée à la centrale des eaux usées, qui, elle, va la rejeter à la rivière par la suite, dépendamment de dans quelle ville vous vous trouvez puis de la façon qu'ils traitent leurs eaux. Là. Mm-hmm. Mais donc, c'est un peu le principe que ça va se faire. Qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est que les particules qui sortent de ma machine qui s'en vont dans l'eau sont les mêmes particules que le feu va brûler, qui va sortir par la cheminée.
Ah, okay.
Et si vous enterrez le corps au cimetière, quand il va se tout décomposer,
oui,
qu'est-ce que vous allez retrouver dans la terre? C'est des particules.
Ben oui. Okay.
Donc, au bout de la ligne, les particules sont soit dans l'air, soit dans l'eau, ou soit dans la terre.
Okay.
Monsieur Le Sieur, pourquoi on choisit cette technique-là? C'est quoi les avantages, les bénéfices? Si, par exemple, on compare avec l'inhumation puis l'incinération que les gens connaissent plus traditionnellement, pourquoi on se tourne vers l'aquamation au juste?
Ben l'aquamation, elle est plus écologique.
Mm-hmm.
Quand on utilise un four crématoire, ben la plupart des fours crématoires marchent soit au propane ou bien au gaz naturel. Mais donc c'est de l'énergie fossile là,
mm-hmm,
qui va rejeter du CO2. Donc certains fours crématoires, là, les plus vieux, vont dégager jusqu'à 160 kg de CO2 par crémation, ce qui équivaut en énergie à un Montréal-Vancouver aller-retour.
Wow.
Donc, les nouveaux fours sont un petit peu plus écologiques, mais je veux dire, il y a quand même une pollution, ce que l'aquamation ne fait pas. Dans les deux cas, on utilise l'électricité pour faire chauffer notre eau. Le four crématoire utilise la même électricité pour le faire marcher quand même, son four. Donc, on est plus écologique au bout de la ligne. Le produit qui est utilisé, c'est du potassium. Du potassium liquide qui est mis dans l'eau. Ça sert à la fabrication de savon liquide. Donc, notre machine, dans le fond, quand que l'aquamation est terminée, ben j'aurais pu avoir fabriqué du savon. Parce que le gras humain, avec le potassium, fabrique du savon.
Ah, ben oui.
Eh ben.
Donc, on fait une machine à savon, si on peut dire. Mais donc, ça devient quand même écologique. Une question de pH à équilibrer à la sortie. Mais là, c'est le même principe que prendre un Coca-Cola dans une machine en fontaine. Donc, c'est du CO2 qui est rejeté dans l'eau.
Mm-hmm.
Donc, ce qui acidifie la solution alcaline, donc qui ramène le pH neutre. Donc, il n'y a pas rien de dangereux, de polluant ou quoi que ce soit dans qu'est-ce qu'on utilise à ce moment-là.
Rapidement, quelles sont les étapes de la technique?
Les étapes, nous, bien sûr, la maison funéraire va aller récupérer le corps à l'endroit du décès.
Mm-hmm.
Le corps va être préparé, ça veut dire que va être retiré du linceul, on va enlever tout ce qui ne se décompose pas. Donc, c'est sûr que dans la machine, lorsqu'on met un corps, le corps n'est pas habillé. Donc, on va retirer les vêtements, on va retirer tout ce qui peut ne pas se décomposer, si on peut dire. S'il y a un pacemaker, des choses comme ça, mm-hmm, ça va être retiré avant. Une fois que le corps est à l'intérieur de cette genre de petite cage qui ressemble à une passoire, si on peut dire, parce que c'est tout en stainless avec des petits trous.
Okay.
Donc, le corps est à l'intérieur et c'est pour ça qu'on récupère tous les os à la fin, os pour os, là,
oui,
à la fin, parce que une fois que la machine se vide, ben tout reste à l'intérieur de cette petite cage qui est tout perforée. Donc, c'est pour ça qu'on dit aucun morceau solide pourrait sortir parce que les trous sont minimes. Et à la fin, quand c'est terminé, nous, ça prend 12 heures, le processus, puisqu'elle était à basse pression. On ressort les ossements et on va par la suite les faire sécher. Donc, nous, on utilise un genre de petit four à convection, là, juste pour les faire sécher. Donc, ça dure 20 minutes environ. Une fois que les os sont séchés, c'est là qu'on va pouvoir les mettre dans la machine qui va les moudre, qui vont en faire une poussière fine. Mais sinon, par la suite, c'est pas mal ça le processus en tant que tel. Là.
Et c'est justement cette poussière d'os-là que les gens peuvent mettre dans une urne et qui va être, par exemple, placée dans je sais pas moi, dans un crématorium, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est ça?
Un columbarium. Un columbarium qui sont dans les maisons funéraires sous forme de niche vitrée. Mm-hmm. Ça peut être mis dans au cimetière où la loi le permet. Je connais pas toutes les lois de toutes les provinces du Canada, mais peut être dispersé.
Oui.
Peut être gardé à la maison. Mm-hmm. Donc, dépendamment des réglementations des provinces. Là,
C'est intéressant tout ça, oui. M. Lecière, président du complexe funéraire Lecière à Granby au Québec. Si on veut avoir davantage d'informations, on peut visiter votre site Internet, évidemment.
Oui, aquamaçon.ca ou lecière.ca. Lecière, c'est juste un S, donc L-E-S-I-E-U-R.
Vraiment, vraiment intéressant, M. Lecière. Merci beaucoup.
Super intéressant. Merci beaucoup
de nous avoir accordé cette entrevue-là, puis on espère que les gens vont se poser peut-être davantage de questions là-dessus, puis vont s'informer également sur ce rite funéraire. Merci.
Ben, merci à vous. Bonne journée.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Imaginez que vous êtes dans un autre pays où vous avez été pour étudier.
Je suis un nouvel arrivant.
Exactement.
Oui.
Et qu'au moment d'entrer sur le marché du travail, oups!
Ça marche pas.
Tu t'aperçois que ça va peut-être pas aussi rapidement et aussi facilement que tu l'aurais espéré.
Est-ce que c'est compliqué comme ça ici?
Ben, dans le site francopresse.ca, c'est un texte que vous lirez vraisemblablement dans certains hebdos à travers le pays. Il y a la journaliste Inès Lombardo qui signait le 13 janvier dernier un article intitulé « Les étudiants étrangers face au mur de l'emploi
».
C'est assez éloquent comme titre. Dans son texte, elle explique que, comparativement à ceux qui sont d'origine canadienne, les étudiants étrangers seraient désavantagés quand ils entrent sur le marché du travail, ce que j'exposais tantôt comme problématique. En cause des barrières qu'on dit systémiques et des ordres professionnels qui, de toute évidence, sont, disons,
pas fermés, mais pas loin.
En tout cas, qui sont pas très ouverts, à tout le moins, à ces profils de candidats. Et on en discute aujourd'hui avec elle, on l'a en studio, Inès Lombardo, bonjour.
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 Inès, d'entrée de jeu, dans l'article, on parle de barrières systémiques, c'est un mot dont on entend de plus en plus parler, là, ces obstacles systémiques auxquels font face, par exemple, les gens qui sont racisés. C'est quoi les obstacles dans ce cas-ci, précisément?
L'une des premières barrières qui est mentionnée dans l'article, c'est l'expérience avant le diplôme, avant d'obtenir le diplôme. Il faut savoir que les nouveaux arrivants, donc les étudiants étrangers, sont désavantagés sur ce point par rapport aux étudiants canadiens, parce que quand on parle d'expérience avant le diplôme, on prend en compte les 10 années précédant le diplôme, le temps qu'on a travaillé, la rémunération. Okay. Et forcément, vu que ça varie selon les pays, et voilà, il y a pas du tout les mêmes conditions. Donc ça peut être un gros désavantage. Le deuxième, vous l'avez nommé, c'est la barrière raciale. Il peut y avoir du profilage racial. On en est encore là, malheureusement.
Mm-hmm.
Voilà, ça c'est
en 2023.
En 2023.
Oui, on parle encore de ça.
On parle encore de ça. D'ailleurs, l'une des personnes qui témoigne dans l'article, Christian Waka, je crois qu'on reviendra plus tard, a expliqué que même s'il n'est pas certain d'en avoir fait, voilà, d'avoir subi, ben c'est quand même une énorme barrière. Aussi, on a une mauvaise reconnaissance des diplômes au Canada.
Okay.
Les nouveaux arrivants sont bardés de diplômes. Ils arrivent souvent avec pas mal de diplômes avant de se relancer dans des études canadiennes. Alors, la reconnaissance est vraiment pas prise en compte et très longue. Voilà,
C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, dans les rues de nos grandes métropoles, des chauffeurs de taxi, des fois, qui sont justement des chirurgiens dentistes.
Ah oui, absolument.
Ou encore des optométristes ou même des architectes qui conduisent des taxis parce qu'il y a justement cette problématique de reconnaissance.
Le diplôme n'est pas reconnu ici.
Exactement.
Quelles sont les conséquences à tout ça, de ces obstacles-là qui sont rencontrés par les étudiants étrangers?
Bah, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire ils sont surqualifiés en fait.
Okay.
Donc ça, c'est vraiment l'une des grosses conséquences, des gros impacts sur eux, c'est que on leur dit souvent, on les refuse à des postes en leur disant, écoutez, vous avez trop de diplômes, vous n'êtes, ça ira pas. Donc ça, c'est l'une des grosses conséquences.
Ouais, les... Gros qualifié.
C'est ça. Puis, alors, il y a plusieurs études qui l'ont montré. Depuis 4-5 ans, il y a des études qui se penchent beaucoup là-dessus. Ils sont bien moins payés aussi, à poste équivalent. Ils sont bien moins payés que les étudiants canadiens, alors même qu'ils ont fait leurs études, qu'ils sont diplômés mm-hmm. au Canada.
Puis on parle d'un gros pourcentage. Là.
Oui, on parle d'un gros pourcentage. Donc, sur la première année, et en fait, ça ne varie pas sur les 5-10 années qui suivent le diplôme, ils sont rémunérés à 33% de moins.
Ouf, c'est le tiers.
30 points de pourcentage, excusez-moi. Wow. Donc, c'est ça, il y a une énorme, énorme différence.
Malgré qu'ils aient acquis les qualifications pour l'emploi en question.
Oui.
Et ils sont surqualifiés en plus.
Ouf, c'est un peu spécial. Dans l'article, et on en parlait tout à l'heure, on lit entre autres le témoignage de quelqu'un, justement ce monsieur Christian Waka, n'est-ce pas, qu'on connaît nous autres plutôt bien dans le réseau des radios communautaires, dans la mesure où il est directeur de l'Association des francophones du Nunavut, et donc de la radio communautaire de l'endroit, mm-hmm. CFRT, parce que CFRT, le titulaire de la licence, c'est l'association francophone. Monsieur Waka dit qu'il a, lui, eu beaucoup de difficultés avant de pouvoir décrocher un boulot dans son propre domaine.
Oui. Il a mis un an avant de trouver un travail dans son domaine. Et pour ça, il a déménagé. Ça, c'est vrai que je l'ai pas mentionné dans l'article pour des raisons. Voilà. Mais il a dû déménager. Donc, ça lui a pris un an. Puis, il a travaillé dans un service de garde, ce qui n'était pas du tout en relation avec son diplôme et ses études de manière générale. Donc oui, il a eu pas mal de soucis. Il m'a aussi confié que ses collègues ses camarades de classe, étudiants étrangers également, étaient encore 4 ans après avoir gradué, étaient encore dans des postes qui n'étaient pas liés à leur diplôme et sous-payés aussi d'ailleurs.
Bien sûr. Simon, t'en as parlé tantôt, t'as parlé des ordres professionnels qui sont plutôt fermés aux étrangers. C'est un autre obstacle qui s'ajoute par-dessus tous les autres. On parle notamment du droit, de la médecine, de l'architecture et même la comptabilité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fermeture-là des ordres?
Alors, selon Paula Mulatrice, qui est vice-recteur de l'Université de l'Ontario français, les ordres seraient fermés parce que les étudiants étrangers ont un manque de réseau. Tout à l'heure, on parlait de l'expérience avant le diplôme. Et cette expérience-là, souvent liée avec les études et dans le cursus aussi, favorise un réseau que les Canadiens ont, mais que les étudiants étrangers n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas forcément la même expérience avant le diplôme.
En bon Canadien-Français, ils n'ont pas le pushing qui vient en arrière pour embarquer dans la gang.
Ouais, c'est ça.
Je veux pas faire un éditorial ici, mais non. C'est sûr et certain que quand tu t'es constitué un réseau de contacts en amont, c'est-à-dire avant d'entrer sur le marché du travail, t'as des gens pour te signer des lettres de recommandation, t'as déjà eu l'occasion de faire des stages, des trucs du genre, ça doit faciliter grandement l'ouverture, quoi qu'on en dise, là. Et ces gens-là, parce qu'ils n'ont justement pas tout ce, excusez l'expression encore, là, mais le « pushing », entre guillemets, pour entrer dans l'ordre professionnel, j'imagine que ça doit poser obstacle, effectivement. C'est ça que vous nous dites, finalement.
Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire, Inès, pour que ces barrières-là, si on veut, ou ces obstacles-là tombent et qu'on favorise justement l'intégration de ces étudiants étrangers sur le marché du travail? Parce que, on est en pénurie d'emplois.
D'employés,
je veux dire,
il en manque partout, là.
C'est pénurie d'emplois, c'est pas des emplois qui manquent, c'est des gens pour occuper des emplois. Qu'est-ce qu'on fait, là?
Eh ben, il va peut-être falloir faire tomber les fameuses barrières systémiques dont on parlait, c'est-à-dire reconnaître les diplômes et éviter de faire passer un médecin qui est déjà diplômé à l'extérieur du Canada des équivalences très longues. Donc, peut-être, c'est normal de remettre à niveau... parce qu'il a besoin de curseurs culturels, peut-être qu'il n'a pas, mais déjà une reconnaissance de diplôme plus rapide et ouvrir des ordres professionnels, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants étrangers aient les mêmes opportunités que les étudiants canadiens avec ces ordres-là. Dans l'article, une dame du Collège des médecins du Canada, donc qui est un ordre professionnel, se défend un petit peu de ça en disant « Mais nous, sur les 5 dernières années, on a 13% au total de permis de médecins qui sont délivrés pour les étudiants internationaux. » Sauf que ben c'est pas si énorme que ça si on remet bien dans le contexte au niveau de l'immigration totale qu'il y a ici au Canada. Voilà, donc ouvrir les ordres.
Entre autres choses, je trouve ça d'autant plus préoccupant, si je peux me permettre, que, comme je le disais tantôt, on est en pénurie d'employés actuellement, et non seulement on est en pénurie d'employés, on manque de gens pour occuper des postes, mais si encore c'était dans des choses comme, on va dire, du commerce au détail ou encore de la restauration, quoique je veux pas dénigrer quelques secteurs d'activité que ce soit, mais c'est dans des secteurs aussi fondamentaux que la santé, la médecine, oui. Les trucs du genre. OK, tu sais, je peux comprendre que, comme Inès le disait tout à l'heure, qu'on ait besoin d'une certaine mise à niveau parce que les maladies, par exemple, infectieuses, oui. Sont pas nécessairement les mêmes en Afrique subsaharienne qu'au Canada.
La situation n'est pas pareille ici.
C'est pas pareil, tu sais, je peux comprendre. Mais entre vous et moi, un corps humain, que vous soyez en Afrique, en Asie ou en Amérique, le cœur est placé pas mal à la même place dans la poitrine. Vous avez pas mal les mêmes organes, puis ça fonctionne pas mal de la même façon. Quelques différences qu'il puisse y avoir. Non, mais je veux dire, il y a peut-être des affaires
qui sont
pour quelques raisons, on va dire, qui sont liées à l'environnement, le climat, l'endroit où tu résides sur la planète, tu fais que t'es mieux acclimaté à ton environnement. Ça, je peux le comprendre. Ouais. Alors, c'est ça que peut-être qu'il demande une mise à niveau. Un an et demi, deux ans.
Ouais.
Mais quand t'es rendu que tu demandes à des gens qui sont bardés de diplômes à Cuba, au Portugal, en Afrique, name it, d'arriver ici puis d'être obligé de s'en aller à l'université pendant cinq ans.
Et de refaire leurs études.
Six ans de refaire les études pratiquement au complet.
Ça
fonctionne pas,
non.
Là.
Non,
ça
pas
fonctionne pas. On va vous inviter les gens à aller lire ce texte-là qui est très intéressant. C'est sur francopresse.ca. Ça a pour titre « Les étudiants étrangers face au mur de l'emploi ». Et vous allez voir que, visiblement, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Ouf, oui, on a beaucoup de chemin à faire.
Mais au moins, il y a des idées, il y a des solutions.
Et on en parle.
Et on en parle.
Et on en parle. Je pense que c'est ça qui est important.
Oui. Inès Lombardo, merci beaucoup.
Merci Inès.
À vous.
Merci. On s'arrête pour une courte pause et dans un moment, on revient avec une technologie qui devrait piquer la curiosité des amateurs de cuisine parmi nos auditeurs. Et on va parler également des chirurgies plastiques et esthétiques qui ont encore la cote, comme on vous le raconte après ceci.
Cette émission
peut contenir des infos.
On se le cachera pas, hein, François, les chirurgies plastiques et esthétiques, c'est quelque chose qui gagne en popularité.
Oui.
On sait que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue à travers le monde, à tel point que...
Ben, c'est de plus en plus accessible.
Bon, il y a ça, hein.
Oui.
Ça, c'est sûr et certain. Les prix sont de plus en plus accessibles et il y a de plus en plus aussi de prestataires de services, si on veut, de chirurgiens plasticiens et d'esthétiques et tout ça. Et il y a quelques jours... Au mois de janvier, ça vient à peine de se produire il y a pas si longtemps que ça, c'est la Société internationale de chirurgie plastique esthétique qui a dévoilé des chiffres qui confirment effectivement que la chirurgie plastique et esthétique, c'est une pratique très répandue sur la planète. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, tu sais, je vous amènerai pas ça si ça parlait que de Taïwan ou encore si ça parlait que de Bangkok, je sais pas trop.
Oui.
La raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que curieusement, dans le rapport qui a été rendu public, ce qu'on apprend, c'est que le Canada figure parmi la liste des 30 pays où il y a le plus de chirurgiens esthétiques à travers le monde.
Tu veux?
Oui, et on a un rang quand même assez enviable.
Ah ouais.
Bon, écoute, on n'accote pas les États, là, quand
même. Ben non.
Mais on est au 21e rang.
C'est encore pas pire. Ça.
C'est encore pas pire.
Oui.
Au Canada, on dénombre 450 chirurgien esthéticien ou esthétique, je sais pas comment on dit ça, à travers le pays. Évidemment, je l'ai dit tantôt, c'est loin des États. Eux autres, ils en ont 7500 dans tout le pays. Et au Brésil...
Ils sont tous très occupés aussi.
Oui, et au Brésil, ils sont pas mal non plus. 6000. 6000 chirurgiens. Tu sais que le Brésil, c'est un des pays où il y a le plus de chirurgie plastique au monde, hein? Ah ouais, ils aiment ça, eux autres. Les fesses brésiliennes, entre autres.
Ouais.
Ah oui, eux autres, puis d'autres choses aussi, là. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que, tu sais, on dit 21 sur 30, OK.
Ouais.
Mais on est quand même, c'est quand même davantage que l'Australie qui vient juste en arrière. Okay. L'Australie ont 425 chirurgiens plastiques ou esthétiques. Et la Thaïlande est juste au-dessus de nous autres, 475 chirurgiens d'esthétique en Thaïlande, où ça se pratique beaucoup apparemment. Ils ont une population de 72 millions d'habitants.
Oui, c'est ça.
Puis Canada, on est quoi, 40 millions, pas loin
à peu près,
Fait que le ratio est là pareil. Ça veut dire qu'on se classe pas pire, là.
Ah oui.
je n'encourage pas les gens à avoir. Je suis pas en train de faire l'apologie de la chirurgie plastique, là, c'est pas ça, là, ou de la chirurgie esthétique, mais je vais juste dire que le Canada,
c'est ça, 11 classes,
c'est étonnant.
Oui.
Et dans les chiffres qu'on a dévoilés, il y a pas très longtemps, là, au début du mois de janvier, c'est pas les chiffres pour l'année 2022. Il va falloir attendre un an avant de compiler tous les résultats de partout. Oui. Là, ce qu'on parle, c'est des chirurgies qui ont été réalisées en 2021.
OK.
Mais c'est intéressant de savoir que...
Pendant la pandémie,
oui. Entre autres choses, la chirurgie plastique la plus réalisée dans le monde, et qui devient la plus populaire dans tout le monde, c'est quoi selon toi?
Ben, moi, j'aurais pensé au sein.
Les implants mammaires?
Oui.
Les implants mammaires ont été la première chirurgie plastique à travers le monde pendant de nombreuses années, mais c'est plus ça.
Ah, c'est plus ça?
Non, c'est plus ça. Ah. C'est la liposuction.
Ah oui?
Ouais, la liposuction a été l'opération de chirurgie esthétique la plus réalisée dans le monde en 2021. Et elle détrône, comme tu l'as dit tantôt, les implants ou l'augmentation mammaire qui était depuis plusieurs années la principale intervention chirurgicale. C'est quoi la liposuction, là?
Ouais.
C'est quand même étonnant un peu. Ben, ça va avec ce que tu disais tantôt, le culte de la jeunesse, le culte de la minceur.
C'est ça.
Donc, la liposuction, c'est une procédure, je pense qu'on l'aura compris, lipo-gras. Hein, ouais. Alors, c'est littéralement de remodeler la silhouette en aspirant les graisses, c'est ça.
Mm-hmm.
Excusez, si vous êtes en train de nous écouter pendant le lunch.
Oui, c'est ça.
Ça peut arriver. Alors, on aspire les excès de graisse à différents endroits du corps, les bras, le ventre, les cuisses et tout ça, les fesses. Alors, c'est ça. Et en 2021, à l'échelle planétaire, 14,8%, presque 15% de toutes les chirurgies esthétiques, c'était de la liposuction.
Wow.
Et les implants mammaires, c'est 13,1% des interventions. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça a passé par-dessus. Mm-hmm. Et dans cette quête de la minceur, la demande pour la liposuction n'a pas d'âge, visiblement. Évidemment qu'on parle pas des enfants d'âge mineur, là, mais c'est pas mal tout le monde, tout âge confondu, on recourt à ça. Et c'est chez les gens qui sont âgés entre 35 et 50 ans quand même que c'est le plus populaire.
Okay.
On a recours à la liposuction à peu près à tous les âges, là, mais c'est les 35 à 50 ans qui ont davantage recours à ça. Puis en même temps, entre vous et moi, c'est pas mal à l'âge où ça commence à se relâcher petite banane de bière là, qui commence à s'installer.
Exactement.
Fait que c'est ça. Alors, dans la suite du top 5, on retrouve au numéro 3 la chirurgie des paupières. La chirurgie des paupières.
La quoi?
Ouais, on appelle ça la blépharoplastie.
OK.
Troisième place, 11,3% des interventions pratiquées. Rhinoplastie.
Ah.
Le nez.
Le nez, oui.
Bien sûr. Chirurgie du nez, qui arrive ex aequo en quatrième place avec l'abdominoplastie. Donc, 7,7% pour les deux, c'est la quatrième et la cinquième place. Ils suivent. Mais c'est intéressant de constater que la chirurgie qui a connu le plus d'augmentation, qui a eu la plus forte croissance, les chirurgies ont augmenté de 53,1%, c'est le lifting des cuisses.
Le lifting des cuisses.
Ouais, ça a l'air que le lifting des cuisses, très populaire.
OK.
Côté esthétique.
Je vais pas t'ostiner.
Côté, non. C'est des chiffres. Ouais, sont c'est là, puis c'est une association.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas une association. J'étudie une association. Ouais, c'est une société internationale de chirurgie plastique esthétique. Donc, qui regroupe, grosso modo, toutes les associations nationales.
C'est sérieux, là.
Donc, c'est quand même une grosse association. Ben je sais pas trop combien de milliers de chirurgiens esthétiques sont membres de ça. Et, côté esthétique à proprement parler, là, on sort pas le bistouri.
Ouais, parce qu'il y a une affaire qu'on n'a pas parlé encore.
C'est ça. On a parlé de plastique, c'est-à-dire de remodeler les seins, de rentrer des trucs dans le ventre pour retirer de la graisse. Mais on n'a pas parlé encore des trucs qui sont moins invasifs.
Des retouches.
Ouais, petites retouches.
OK.
Côté esthétique, c'est l'injection de toxines botuliques.
OK, le Botox.
Ce qu'on appelle le fameux Botox qui arrive en tête du classement.
Parce que moi, c'est ça, je pensais.
41,6% des interventions esthétiques.
Wow.
C'est pour se faire shooter du Botox.
Du Botox. Ah, ouais.
Joue dans les lèvres, pas trop.
Oh, oui.
Menton, peut-être aussi, je sais pas. Je me fais ça. Fait que, tout de suite après, c'est les injections d'acide hyaluronique. 30%. Et, ça, c'est quand même plus fréquent, là. Quoi que je dise ça. Mais l'épilation définitive. C'est l'épilation au laser, là, les poils, les aisselles, par exemple, les jambes, les trucs du genre. Ouais. Là, c'est 10,4% des cas qui sont faits pour ça.
Ah oui? L'as-tu fait?
Non, j'ai pas fait.
OK.
pas fait ça. J'irai pas dans un cas. Je m'excuse là, pour les gens qui font de la chirurgie esthétique ou chirurgie plastique.
Non, moi non plus, je serai pas votre client.
J'irai pas là.
Non.
Mais attends un peu. Faut jamais dire je ne boirai pas ton eau.
C'est vrai.
Ça pourrait arriver qu'à un moment donné, j'ai un accident ou j'ai quelque chose.
Et qu'on ait besoin de.
Que j'aie besoin de
reconstruction.
Ça.
Oui.
C'est ça. Mais pour l'heure, je m'accepte pas pire comme
c'est
ça.
C'est
ça. Pas dire que je suis le plus beau, là. Pas ça, là. Mais en tout cas. Et qui sont les champions de la chirurgie plastique et esthétique au monde? Les États.
Ah, oui, OK.
Le premier.
Oui, oui.
L'autre, je l'ai dit. Brésil.
Le Brésil, ouais.
Deuxième. Et les Japonais. Ouais, ça a l'air que les Japonais aiment beaucoup la chirurgie esthétique et plastique.
Oui, hein?
Ouais, ça a l'air qu'ils sont troisièmes à travers le monde.
Ah, j'aurais pas pensé.
Qui l'eût cru.
Ben oui, qui l'eût cru, certain. Tantôt on parlait de bédaine de bière.
OK.
On va parler maintenant, parce que c'est un sujet, je sais, qui va te plaire, parce que toi, tu es l'image parfaite du cook.
Ah non, je suis pas l'image parfaite du couple. J'aime cuisiner.
Oui, non, non.
Barbecue, je fais les repas.
Au bureau, tu es l'image.
Je suis l'incarnation. C'est quand ça. On se ferme les yeux, puis qu'on dit, c'est qui cuisine dans le bureau, puis qui fait à manger, puis tout ça.
Oh, c'est Simon.
C'est Simon.
C'est Simon. Et c'est parce que je sais que t'aimes faire de la bouffe.
Ouais.
Mais t'aimes la techno aussi.
Oui, j'adore la techno.
On est deux geeks, mais je sais que
je suis genre à avoir la petite sonde que tu mets dans le poulet quand tu mets le poulet dans le barbecue, puis avec une sonde Bluetooth, là, puis j'ai ça sur mon téléphone cellulaire. Puis t'sais,
ouais, bon, ben, regarde,
j'ai un thermocirculateur aussi avec l'application étalée sur mon téléphone cellulaire pour savoir quand les plats dans l'eau bouillante vont être prêts.
Oui.
C'est genre d'affaire à main.
OK, oui, ben, j'avoue. Celle-là, probablement que tu vas l'avoir aussi un jour.
Ah!
Oui.
Convainc-moi.
C'est la marque Samsung. Que tu connais bien.
Oui, ben, bien sûr.
Bon, ils font pas rien que des téléphones.
Non.
Non, ils font aussi des appareils ménagers.
Oui.
Des poêles. Puis ils ont une ligne d'électroménager intelligent qui s'appelle Bespoke. Le nouveau four s'appelle Bespoke AI.
AI?
Oui.
Artificial Intelligence?
Et voilà, tu as tout compris. Il est muni d'un écran tactile de 7 pouces. Donc, déjà, là, en partant, c'est le fun.
Ben oui, c'est...
Tu sais, tu peux lire tes nouvelles en même temps ou jouer au solitaire. Hein? La folie de la friteuse à air, on en entend tellement parler que j'ai été obligé de m'en acheter une. Ça a gagné le géant sud-coréen qui inclut ce mode de cuisson-là, son appareil, en plus de la cuisson à vapeur.
Wow!
Et de la cuisson sous vide à air. Celle-là, je la connais pas. Sous vide à air, je la connais pas.
Ben, ça doit être un peu le même principe que mon thermocirculateur. C'est-à-dire que tu mets des trucs dans une poche plastique sous
probablement,
vide. Puis au lieu d'être dans l'eau qui bouille, mais dans l'eau chaude.
Là, c'est à l'air.
Ça fait
du sens. Mais le clou du spectacle, mon cher ami, c'est qu'ils ont installé dans ce four une caméra d'intelligence artificielle.
Fait que tu vas faire des shows de poulet, finalement, ou des shows de roast beef.
Ça peut à peu près ça. Ça permet de détecter quel est le plat en préparation.
Hein? Tu peux le voir sur la tablette, j'imagine.
Puis ça va te suggérer des paramètres de cuisson.
OK!
Oui, mais attends une minute. C'est pas fini. C'est peu fini.
Continue.
La caméra, qui peut aussi prendre des photos, est reliée à un système de notification qui avise le cuisinier ou la cuisinière sur son téléphone intelligent si le plat est sur le point de brûler. Par exemple, les propriétaires de l'appareil peuvent aussi consulter en direct la vidéo de la cuisson.
C'est ça. Tu te fais un show de poulet.
De ce qu'il y a dans le four.
Ah oui, c'est...
Oui, tu peux te faire... C'est le fun. Tu peux te faire un show de poulet.
C'est le fun, mais c'est un petit peu too much, tant qu'à moi.
OK, mais ça permet aussi d'éteindre le four à distance.
Ouais.
Puis il y a d'autres options de contrôle avec cette application-là, le SmartThings, qui est disponible sur iOS et Android, en passant. Mais je suis d'accord avec toi, ça commence à être un peu too much.
Un petit peu.
OK. Avec la vie des gens d'aujourd'hui, qui sont tellement tellement occupé à faire ci, à faire ça, t'as les enfants, tu mets quelque chose au four, t'es en train de jouer avec les enfants, oups, tu regardes ton téléphone, ah, ouais, oh, il est cute, mon poulet, hein? Belle petite couleur.
C'est ça, on vit dans un univers de, de gamification.
Oui.
Alors, c'est ça. C'est
non, non, mais je dis, t'as des écrans sur un frigidaire. T'as des écrans sur un frigidaire.
Okay. J'ai le droit de trouver ça spécial pareil, même si je suis un geek.
Oui, oui.
Je trouve qu'on est rendu loin.
Mais tu sais...
Pensais-tu voir ça de ton vivant?
Non, je pensais pas. Ben non, mais je pensais pas de voir un écran sur un frigidaire. Tu sais, tout ce qu'on avait sur un frigidaire, c'était un opener.
Voilà.
Puis là, on est rendu avec un écran.
Alors, on va arrêter ça là parce
on va aller
à une toilette avec un écran géant, je sais pas trop.
Ça, ça sent bien, c'est sûr.
C'est probablement, oui. Pour... Puis on vous dira pas ce que vous...
Non,
on parlera pas du
tout. On arrête ça là.
OK, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous hebdomadaire.
Bonne semaine.